On va parler consommation à présent, le salon de l'agriculture qui a pris des airs de speed dating aujourd'hui d'une certaine façon entre les cadors de la grande distribution et les agriculteurs avec Karine Lemarchand en Cupidon, on peut le dire, Roselyne, Carrefour, Intermarché, Auchan, Casino et la coopérative U ont pris des engagements en faveur des producteurs locaux. Alors coup de maître ou coup de com', on va en parler dans un instant, mais avant écoutons celle qui est à l'origine donc, de cette initiative.
Les petits producteurs qui ont moins de 2 salariés hors saisonniers, qui transforment évidemment leurs produits, qui se déclarent en difficulté, vont pouvoir ouvrir la porte des magasins partenaires à moins de 100 km de chez eux. Ça peut faire quand même pas mal de magasins. Et vont pouvoir vendre leur production au prix que eux fixent, sans négociation, sans intermédiaire, payés sous 30 jours.
Et on accueille ce soir Henri Gaudron, bonsoir. Vous êtes le président de Biocoop. Bonsoir Philippe Godsman.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur du cabinet de conseil Philippe Godsman et expert de la grande distribution. Vous étiez tout à l'heure présent lors de cette rencontre, je disais tout à l'heure coup de maître, coup de com', vous nous direz ce que vous en avez pensé. Et bonsoir Bruno Cardo.
Bonsoir.
Vous êtes agriculteur céréalier, vous êtes membre de France Agri Twittos. Je précise qu'on sera tout à l'heure avec notre chef cuisinier Yves Candebord, comme ça on aura les regards de tous les acteurs sur cette proposition de Karine Lemarchand et de la grande distribution. Henri Gaudron, juste un mot, vous n'y étiez pas, vous n'étiez pas invité tout à l'heure ?
Non, on n'était pas invité pour Biocoop, mais je vais dire c'était les 5 grands de la grande distribution. Biocoop n'y était pas, mais c'est pas grave.
Vous auriez aimé y participer ?
Oui,
on va y revenir tout à l'heure d'ailleurs sur cette absence, parce que Karine Lemarchand en a parlé de cette absence qui a fait beaucoup de bruit. Vous auriez aimé y être ?
Ah mais écoutez, toutes les initiatives sont bonnes à prendre pour l'agriculture française, et oui, on aurait pu participer effectivement à cette réunion et pouvoir échanger, pouvoir donner des idées, pouvoir donner notre avis aussi, pourquoi pas.
Vous avez un stand là au Salon de l'agriculture ?
Le Synadis Bio a un stand avec tous les distributeurs bio.
Et comment vous êtes accueillis par les agriculteurs au salon ?
Bah, écoutez, très bien. Très bien accueilli aussi par tous les spectateurs. On a l'occasion de parler de nos produits, de la bio, et l'accueil est vraiment chaleureux de la part de tout le monde.
Ça n'a pas toujours été le cas. L'année dernière, notamment, vous avez été prise à partie pendant la crise agricole. On y reviendra dans un instant. Philippe Godsman, l'amour est tout prêt. C'est le nom de ce nouveau logo qui a donc été présenté tout à l'heure par Karine Lemarchand. En fait, c'est un logo qui, si on a bien compris, va débarquer dans les supermarchés qui sont partenaires sur un certain nombre de produits pour aider les agriculteurs en difficulté. Qui sont les agriculteurs qui sont concernés par ce logo ?
Alors, on ne sait pas encore, on verra, mais il s'agit de permettre aux agriculteurs, alors de petites exploitations, je crois que c'est moins de 2 salariés qui rencontreraient
c'est ça, 2 salariés équivalents voilà. Temps plein au maximum. Ça,
qui rencontreraient des difficultés économiques, d'avoir un accès privilégié et facilité dans les magasins des enseignes qui ont présenté la démarche ce matin. Donc on est sur une partie de l'agriculture qui est déjà limitée. On est sur des productions limitées également parce que l'agriculture qui peut vendre directement à des magasins, c'est de l'agriculture qui n'est pas transformée. C'est-à-dire essentiellement des fruits et légumes. Il y a quelques autres productions, mais c'est essentiellement des fruits et légumes, à moins que l'agriculteur ait un atelier de fromage, de confiture, que sais-je. Mais on n'est pas sur des grosses productions de masse. Hein. Donc ça restera relativement restreint, mais c'est des accès qui peuvent être très utiles pour ceux qui connaissent des difficultés ponctuelles, avec en plus une initiative sur les délais de paiement qui permet d'avoir un paiement accéléré par rapport à ce qui se fait d'habitude. C'est une des 3 mesures. Hein.
On va détailler les autres mesures dans un instant, mais qu'on comprenne bien celle-là. Ça veut dire que nous, consommateurs, on va avoir accès à des produits qui jusqu'ici n'étaient pas référencés par la grande distribution.
En fait, il y a beaucoup de ces produits-là de local qui sont déjà présents dans les magasins. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Michel-Édouard Leclerc, enfin, le groupement Leclerc, a choisi de ne pas venir. Ils disent...
Et c'est
en bonne partie exact. Ils le font déjà. D'ailleurs, toutes les enseignes le font déjà. Simplement, le balisage, le signalétique qui sera mis en magasin va permettre aux consommateurs de savoir quels sont les produits de producteurs qui sont actuellement en difficulté, pour que le consommateur se dise bah, j'achète ce produit plutôt qu'un autre parce que j'aide un agriculteur aujourd'hui qui connaît des problèmes financiers ou des problèmes de débouchés.
Ça signifie qu'il n'y aura pas d'intermédiaire entre la grande distribution et ces agriculteurs.
Pas de négociation. C'est prévu dans le
projet. Pas de négociation.
Pas de négociation de prix.
Ce seront en fait les prix proposés par les agriculteurs. La grande distribution s'engage à ne pas tirer les prix à la baisse. Mais donc ça veut dire que pour nous consommateurs, on va payer du coup plus cher.
Enfin,
vous savez, les produits locaux ou des produits de direct.
C'est le but aussi.
Ouais. Non, aujourd'hui, les produits directs, magasins, les produits locaux qui sont présents hein, dans beaucoup de magasins sont en moyenne assez nettement plus chers que les produits industriels. C'est assez normal, c'est assez habituel. Mais ils ont une qualité différente. Ils sont locaux, ils font partie de l'écosystème et ça se vend tout à fait bien.
Je vais vous donner la parole dans un instant, Bruno Cardo. Vous allez me dire ce que vous pensez de cette initiative. Mais Roselyne, Karine Lemarchand l'a expliqué cet après-midi. Elle dit voilà, les consommateurs, moi je suis persuadée qu'ils sont prêts à dépenser un peu plus pour soutenir les agriculteurs. Vous le pensez
oui,
aussi?
Oui, vous vous souvenez qu'on a reçu la semaine dernière Nicolas Chabanne qui nous a expliqué dans sa... qui d'ailleurs dans l'entreprise c'est qui le patron, dont d'ailleurs Karine Lemarchand est sociétaire. Mmh. Hein, donc il y a aussi une opération qui soutient c'est qui le patron de Nicolas Chabanne, et c'est intéressant. Moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans cette affaire, mais penser que ces trois actions vont permettre de résoudre les problèmes de l'agriculture française, alors là j'ai un très très gros doute. Et elle dit, Karine Lemarchand, elle dit finalement je ne crois plus aux politiques, ils ne font rien. Les discours populistes, je trouve qu'on en voit la limite. Le problème, c'est peut-être justement qu'on a créé un écosystème qui est un écosystème technocratisé, étatisé. Peut-être que le politique, il intervient presque trop dans l'agriculture, oui. Que pas assez. Il permet pas à 100 000 fleurs de fleurir, pardon, de prendre cet exemple de la révolution chinoise. C'est peut-être pas très bien adapté. Mais bon. C'est intéressant, mais c'est une tranche epsilonesque de l'agriculture.
On va l'écouter justement, Karine Lemarchand, et elle explique pourquoi elle a lancé cette initiative.
Ce qu'il faut, c'est qu'on bosse main dans la main et qu'on communique. Et moi, je pense qu'on peut sauver les choses. Alors, on va pas sauver le monde, mais si on peut sauver la vie de quelques personnes, c'est comme ça que je les ai eues. Je leur ai dit, on a tous à peu près plus de 50 ans. D'accord? Notre carrière, elle est faite. La maison, elle est payée, plus ou moins. D'accord? On va mourir dans 30-40 ans, on n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser de nous? C'est maintenant qu'on peut le faire. Et je pense que je les ai un petit peu comme ça.
Elle le dit, hein, Karine Lemarchand, l'idée, c'est pas de sauver le monde, c'est pas de résoudre tous les problèmes, mais c'est d'aider au moins quelques agriculteurs. Vous dites quand même populiste, ce discours de Karine Lemarchand.
C'est-à-dire que de dire les politiques ne font rien, je trouve que c'est un argument qui ne fonctionne pas. C'est un argument un peu facile, peut-être aussi parce que j'ai exercé un certain nombre de responsabilités que ça mérite furieusement.
Donc en toute objectivité.
Toutes les journées, j'ai passé à défendre les agriculteurs de Maine-et-Loire.
Bah, vous en avez un à côté de vous, un agriculteur, Bruno Cardo.
À Maine-et-Loire, mais Hauts-de-France.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette initiative? Est-ce que vous l'accueillez bien? Vous dites effectivement, c'est une bonne...
intention, franchement, voilà, maintenant... nous, on est des terriens. Moi, j'ai de la botte au pied et la tête connectée, comme je dis toujours. Et c'est le concret sur ma ferme qui compte. Si ça va vers mon revenu qui augmente, mais bon, regardez, depuis un an, on a eu beaucoup de choses, beaucoup de lignes qui sont parties, quelques quand même résultats, hein, c'est quand même assez vide. Hein,
Comment ça se passe pour vous aujourd'hui, vos rapports avec la grande distribution? Par des industriels? Par des intermédiaires?
Oui, alors on contractualise en partie, par contre, pour le sucre, pour ma betterave sucrière, je contractualise avec la transformation, les sucriers, voilà, des contrats de 5 ans. On est tenu comme ça.
Mais oui, non, vous ne vendez pas des betteraves à la grande distribution directement.
Alors, mais non, et du tout. Et même nous, humains, on n'est pas capable de mon blé, on n'est pas capable de le manger comme ça directement dans la main comme une poule. Voilà, il y a vraiment toute une filière de transformation qui est très importante derrière. Donc moi, en fait, mon rôle, c'est je suis premier maillon. Ma mission que j'ai acceptée, c'est de garantir la santé des assiettes. Voilà, tout faire pour avec mes matières premières. Derrière, voilà, tout le monde doit en faire autant. Donc là, on parle sûrement de répartition de valeur sur l'ensemble de cette chaîne jusqu'à nos assiettes. Et il faut qu'on arrive à trouver le moyen d'équilibrer tout ça et de faire en sorte que, justement, moi, ce premier maillon puisse vraiment vivre de mon métier et transmettre aux enfants, quoi.
Mais est-ce que vous les pensez, vous les croyez, vous les espérez sincères, les distributeurs? Parce que je voyais tout à l'heure François-Xavier Huard, qui est le président de la Fédération patronale de l'industrie laitière, qui disait l'amour est peut-être dans le pré, mais pas dans les salles de négociation, parce qu'en ce moment, les négociations, elles sont ultra tendues, et en gros, la grande distribution se donne un peu le beau rôle avec cette action. Mais que la réalité, c'est qu'elle est en train de tirer les prix vers le bas.
Quand est-ce qu'on va sortir de cette guerre, de ce triangle éternel entre nous, agriculteurs, transformateurs, distributeurs? Comment on fait pour sortir de ça? Si vous avez la solution, vous nous le dites tout de suite, et on le fait, quoi, parce que ça fait des années et des années, ouais, qu'on parle de ça. Donc alors, il y a peut-être des outils qui sont sortis depuis hein, Egalim et tout ça, mais bon, et encore Egalim, c'est pas hyper concret. Mais voilà, comment on fait ? Il faut vraiment qu'on y arrive, parce qu'en attendant, nous, premier maillon, on crève.
Henri Gaudron, je vous vois sourire sur cette bataille entre industriels, grande distribution.
C'est le principe de la coopération. Biocoop, c'est une coopérative où on regroupe à la fois des producteurs, des consommateurs, des salariés et des magasins. Et on se met autour de la table très régulièrement, on discute entre nous, on travaille le plus possible en commerce équitable. Commerce équitable nord-sud, ça fait des années. Commerce équitable nord-nord, ça nous permet aussi de garantir un revenu correct à nos producteurs. Biocoop travaille avec 12 000 fermes avec qui on assure des relations commerciales correctes. Des fois, les relations peuvent être un peu tendues, toujours. Mais la plupart du temps, ça se passe très bien et on fait des efforts pour que tous nos producteurs puissent vivre correctement. L'année dernière, on avait pris la décision de verser 3 millions d'euros à nos agriculteurs, à nos fermes partenaires. On recommence en 2025 parce que on sait que beaucoup sont en situation critique et c'est très important de les supporter, de les aider financièrement pour qu'ils puissent passer ce mauvais cap.
Donc vous dites que vous êtes dans un schéma à part parce que vous êtes une coopérative, Rosine ?
C'est-à-dire que je voulais interroger monsieur parce que la crise inflation a quand même durement touché le bio. Et les consommateurs se sont détournés dans des proportions importantes. Est-ce que c'est en train de repartir ?
Alors c'est une impression parce que pendant les deux
années, c'est pas vrai.
Pendant les deux années de très forte inflation, on a eu une inflation de 20% en GMS, 12% pour. Alors je vais parler de Biocoop, mais on a eu une inflation de 12% chez Biocoop. Donc on a eu cette illusion et maintenant, si on regarde les prix, l'huile d'olive Biocoop, on est moins cher qu'une grande marque, le leader du marché. Voilà, il y a pas mal d'exemples comme ça où on peut vous dire que oui, nos produits Biocoop sont moins chers que des marques nationales en conventionnel.
Donc il n'y a pas de raison de s'en détourner.
Ben non, on a très bons produits, on assure au mieux les revenus de nos agriculteurs. On a des produits qui sont gustativement très bons aussi, parce que ça aussi, le manger, c'est pour se faire plaisir.
Ah, ça, c'est vrai.
Et on n'est pas.
Avant tout.
mon expression fétiche, on n'est pas des bouffeurs de graines.
Oui.
On a vraiment de très, très bons produits et il faut qu'on le fasse savoir et que les gens viennent et on a des prix tout à fait corrects.
Mais est-ce que c'est une spécificité de Biocoop? Parce que c'est vrai que le marché du bio a connu plusieurs années de crise. Est-ce que le marché du bio, d'une façon générale, est en train de s'en sortir ou c'est un marché qui reste quand même très fragile?
Donc, Synadis Bio, on regroupe tous les distributeurs bio spécialisés, tous on fait une bonne année 2024. Biocoop a tiré son épingle du jeu parce qu'on a eu une croissance de 8,5% l'année dernière. On progresse un peu plus vite que nos collègues. Mais l'ensemble des distributeurs spécialisés bio ont fait une belle année.
Vous ouvrez plus de magasins que vous n'en fermez aujourd'hui ?
Alors, pour 2024, on est en positif et 2025, on sera très certainement aussi en positif.
Donc, vous allez encore en ouvrir
oui,
en 2025.
On en ouvre encore.
Je reviens sur vos relations avec les agriculteurs. Vous disiez, nous, on est une coopérative, on a un mode de fonctionnement qui est complètement différent par rapport à la grande distribution. Néanmoins, vous avez vous avez reçu aussi la colère des agriculteurs l'année dernière lors de la crise agricole. Il y a plusieurs de vos magasins qui ont été pris pour cible. Et certains agriculteurs, on va les entendre, disait à l'époque, en fait, ils ont les mêmes pratiques que la grande distribution. Écoutez.
J'exprime ma colère, je vous donne un exemple très simple. Depuis 3 jours, j'ai des brocolis, je leur propose, ils ne m'achètent pas. Moi, je me retrouve coincé, j'ai plus d'autres solutions pour vendre. Et la semaine prochaine, ils imposent une promotion. C'est ou j'accepte, ou je jette ma marchandise. J'ai pas le choix. Ils se disent, ils se réclament éthique, équitable, commerce équitable. On n'en peut plus. Moi, ça fait 16 ans que je travaille avec Biocoop. C'est une honte leur pratique. Ils ont les mêmes pratiques que la grande distribution.
Est-ce que c'est juste une façade, le côté coopérative, éthique ?
Non, on a eu un problème de communication. Si on va dans le détail, parce que Fabien, on l'a vu, enfin je l'ai revu encore.
Vous l'avez rencontré ?
Oui, bien sûr. Oui, c'est un producteur de Soleil Bio. On discute régulièrement. Il y a eu un problème de communication avec la coopérative à un moment donné où, pour nous, il n'y avait pas de brocoli disponible en France, donc on est allé effectivement chercher en Italie.
C'est dégueulasse, les brocolis.
Problème vraiment de communication et que ça.
J'aime pas ça.
Parce que typiquement, le groupement économique dont vous citiez le nom, Soleil Bio, disait que les prix étaient plus bas que 3 ou 4 ans auparavant, alors que dans le même temps, les charges, leurs charges à eux avaient augmenté.
Alors, il faut savoir que pour tous nos groupements, on travaille en commerce équitable. Commerce équitable, ça ne veut pas dire comme ça, pouf, tous les jours, on va être à un prix correct, mais sur l'année, on va lisser les prix, on va regarder les prix de façon à ce que chaque producteur puisse vivre décemment.
Bruno Cardo, vous vouliez réagir ?
Non, mais je disais, enfin, il y a eu un petit peu des conversions quand même.
Oui, mais justement, le troisième pilier de Madame Le Marchand, c'est l'observatoire des filières d'avenir. J'ai l'impression que ça existe dans toutes les chambres d'agriculture.
Le mot observatoire, moi, j'en peux plus.
Oui, c'est ça. Bon, d'accord.
Alors, qu'est-ce que c'est que cet observatoire des filières d'avenir?
C'est un mot de ministère, donc c'était pas à Karine Le Marchand de dire ça. Je sais pas, elle aurait dû trouver autre chose.
Oui. Et donc, bon, des filières d'avenir. Vous faites de la betterave sucrière,
oui,
hein, Bruno. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Comment vous voyez votre métier dans 10 ans? Vous avez envie d'évoluer, de faire autre chose, comment on transforme une exploitation agricole?
Si je veux pouvoir continuer ma mission, donc comme j'ai dit, de continuer à produire des aliments sains et à bon marché et gagner de l'argent, pouvoir continuer à transmettre à mes enfants, il faut du revenu. Parce qu'avec du revenu, je fais tout. Je passe tous les aléas climatiques qui sont plus fréquents, aléas géopolitiques, hein, carburant et tout ça, les engrais, et les aléas réglementaires qui sont vraiment pour moi un aléa. Hein. Si j'ai du revenu, je peux traverser tout ça et je peux tout faire et je peux transmettre. Si on prend l'exemple du sucre, là j'ai un gros souci de distorsion de concurrence, voilà, vraiment déloyale intra-européenne. Voilà, je n'ai pas la même règle du jeu que les voisins européens pour produire des betteraves et le prix de mes betteraves a été fortement impacté, entre autres avec l'Ukraine.
Il n'y aurait pas d'intérêt pour vous à aller vers le bio?
Sur la betterave sucrière.
Sur la betterave, on ne peut pas, en fait.
Voilà. C'est pas facile de faire du bio. Hein.
Vraiment. Vous voyez, en 2021, avec ma voisine Alice, on a planté de la vigne, du chardonnay dans les Hauts-de-France. Et on avait vraiment dans l'idée de dire, c'est une demande locale, circuit court, tout petit. On avait dit, allez, on fait du local. Et puis, si on peut, on va vers le bio et tout ça. Et en mai, on a eu une grêle colossale. Et donc, on marchait cuivre, soufre, voilà, nickel. Et si on n'avait pas sorti une molécule de synthèse pour pas sauver la récolte, mais sauver le plant de vigne qui était jeune, voilà, on était en cata et on fermait la boutique juste après l'avoir ouverte. Donc, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, ça va être compliqué. Allez, on va avancer un petit peu sur ce circuit court chardonnay local et on verra le bio après, quoi. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas simple.
Mais la science progresse vite pour vous aider à vous débarrasser de tous les pesticides et de...
Évidemment. Et parlons-en d'ailleurs. On aurait vraiment besoin de plus de recherche. Elle est où la recherche aujourd'hui?
L'INRA?
Elle existe, oui. INRA, Arvalis, tout ça. Très bien, vraiment. Mais est-ce que c'est suffisant?
J'aimerais qu'on écoute à présent l'avis d'un chef cuisinier. Bonsoir, Yves Candebord.
Bonsoir.
Merci de vous connecter quelques minutes avec nous, d'autant que j'ai cru comprendre que vous vous leviez très tôt demain matin, donc merci de nous accorder un petit peu de temps. Est-ce que vous soutenez, vous, cette initiative, ce label qui a été lancé par Karine Le Marchand et la grande distribution, L'amour est tout prêt?
Ben, le soutenir, je pense, oui, on va le soutenir. Maintenant, c'est vrai que ça reste un petit coup de dos, mais l'inquiétude, c'est savoir est-ce que c'est pas la grande distribution qui s'achète une conscience? Voilà, parce qu'ils font cet effort-là, c'est certes, mais pour aller voir de temps en temps les rayons de grande distribution, durant tout l'hiver, on a le droit à avoir des tomates, des courgettes, des aubergines qui arrivent de pays étrangers, plutôt que favoriser le brocoli. Alors, je sais pas qui a dit que c'était pas bon le brocoli, mais si vous voulez.
Je crois que c'est Roselyne qui a dit que c'était pas bon le brocoli.
Alors, c'est dégueulasse.
Elle dit même que c'est dégueulasse.
Je vais vous le cuisiner, vous allez voir si c'est pas bon.
Bah, donnez-nous une recette, Yves Candebord, recette de brocoli.
De favoriser tous les produits, bien sûr, saisonniers français. Ouais. Je pense que déjà, ça serait une bonne démarche et surtout une démarche saine et intelligente. Alors, la démarche, elle est belle, mais est-ce que la grande distribution, une fois de plus, ne s'achète pas une conscience? C'est, pour moi, c'est une vraie question.
Et vous, restaurateur, quelles sont vos relations avec les producteurs?
On a de très très bonnes relations parce que nous, si on n'a pas de producteurs, on n'existe pas. Vous savez, les cuisiniers, la gastronomie française, si elle existe, c'est parce qu'on a des milliers d'artisans, producteurs qui nous amènent tous les jours des produits d'exception et qui nous permettent de porter haut la gastronomie française.
Vous passez directement par les producteurs, vous?
Alors, à Paris, on a la chance d'avoir Rungis. Et Rungis, c'est vrai que c'est une plaque tournante de l'ensemble du territoire français. Donc, on a une vraie facilité. Et après, on a encore quelques producteurs en direct, surtout par rapport à la Bretagne et le poisson. On a encore des pêcheurs qui viennent nous livrer une à deux fois par semaine.
Mais est-ce que vous seriez prêt à mener, au-delà de la sincérité de la grande distribution dans cette initiative, cette idée de label, de dire, voilà, on va permettre à des petites exploitations agricoles qui embauchent deux salariés, qui n'ont pas les moyens d'aller discuter en temps normal avec la grande distribution, bah de le faire cette fois-ci, et qu'il n'y ait pas de négociation des prix? Est-ce que vous dites, est-ce que vous-même, à votre échelle, en tant que restaurateur, vous dites, il y a peut-être des actions à mener pour aider ces toutes petites exploitations agricoles?
Oui, bien sûr, mais on le fait déjà régulièrement. Les cuisiniers qui se respectent et qui ont des restaurants respectables, bien souvent la carte est faite par nos producteurs. C'est eux qui nous disent cette semaine, eh bien, on a des brocolis. plus que de chou-fleur. Donc on va axer notre carte sur le brocoli. On est en liaison permanente avec eux. Mais les courses, ça devrait être comme ça. Quand on va au marché, il faut pas arriver au marché en se disant « je veux ». Non, qu'est-ce qu'il y a? Et en fonction de ce qu'il y a, on prend. On prend du saison et du frais. Voilà. Pour moi, c'est les bases de la restauration, mais c'est exactement les mêmes bases qu'on devrait avoir à la maison. Donc notre relation avec les producteurs est indispensable et elle est très très importante pour arriver à tenir des restaurants de qualité et de haut niveau.
Donc si je vous comprends bien, ce sont les producteurs, ce sont les agriculteurs, ce sont les Bruno Cardo en fait qui font les menus dans vos restaurants.
Oui, quand on va arriver à Pâques. Bien sûr qu'à Pâques on va avoir de l'agneau. Mais étant donné qu'ils ont de l'agneau, on va leur prendre de l'agneau, on va pas leur demander à Pâques, mais mettez-nous du veau, on va attendre la Pentecôte pour le veau. Tout est comme ça, les Saint-Jacques, c'est exactement pareil. On met de la Saint-Jacques quand nos pêcheurs nous disent, c'est la période de la Saint-Jacques, ne prenez pas autre chose, vendez de la Saint-Jacques, mais on est capable de faire des menus avec deux entrées à base de Saint-Jacques, deux plats à base de Saint-Jacques, parce qu'on s'adapte à nos producteurs.
Alors il y a Roselyne qui était... Yves Candebord, vous allez peut-être pouvoir renseigner Roselyne. Roselyne était en train d'interroger Bruno Cardo. Elle disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la betterave?
Sucrière. Alors, Bruno m'a dit que j'avais un plat avec la betterave.
Alors, attendez, on va faire un match de plats. Yves, donnez-nous une recette autour de la betterave.
Non, mais la betterave est un légume très intéressant. Il peut être aussi bien consommé cru que cuit.
Oui, sucrière. J'apporte une précision. Betterave sucrière.
Alors, honnêtement, je n'ai jamais travaillé de betterave sucrière.
La
question est vraiment bienvenue, chef. Écoutez-moi, dans mon département, on a un nouveau chef étoilé qui est arrivé. J'ai eu la chance d'y aller et on avait fait un pari. Il m'a dit, je fais un dessert avec tes betteraves sucrières. 3 semaines après, il a fait un post sur Facebook. Il a dit, regarde, il a mis du lait. Il a fait un super dessert avec du lait et la betterave sucrière. C'était à tomber.
Délicieux.
Bon, voilà, le défi est lancé, Yves Candebord.
Je vous lance le défi.
Avec grand plaisir. Mais quand on a des bons produits, la cuisine, c'est facile. Mmh. Et ça aussi, faut le dire. Cuisinons. Parce que la grande distribution qui veut se donner encore un beau rôle, quand on voit tous les plats préparés qui sont vendus et qui sont ignobles, qui sont chargés en arômes, qui sont chargés en conservateurs et qui sont pratiquement toxiques pour la santé, incitons plutôt les gens à cuisiner, incitons les gens à prendre des légumes frais, à prendre des produits frais. Et là, déjà, on va faire une grande démarche et on va bien avancer pour aider nos producteurs.
Sur la saison.
Merci Yves Candebord de nous avoir accordé quelques minutes ce soir. Philippe Gutzmann, quand vous entendez...
Je vous donne un cours de cuisine pour le brocoli. Pour les brocolis.
Sur le brocoli. Ok, nous aussi, on la veut bien aussi, la recette de brocoli. Philippe Gutzmann, quand vous entendez Yves Candebord dire, bon, faut arrêter la grande distribution, là, elle est en train de se donner le beau rôle, c'est un peu facile.
Non, faut pas. Je comprends l'objection, mais non. Les démarches qui ont été présentées aujourd'hui, elles sont sincères. Pour la plupart de ce qui a été évoqué, ce sont des choses qui sont déjà pratiquées. Simplement, là, on va, en quelque sorte, ils vont l'industrialiser, l'organiser mieux. Ce qui, par contre, doit être compris, je crois, et Roselyne Bachelot l'a suggéré tout à l'heure. La bonne alimentation et les problèmes d'agriculture, si on veut les traiter, il faut traiter la masse et pas la marge. Le bio, alors Biocoop fait un travail remarquable et c'est sa spécialité, mais le bio dans la grande consommation, c'est 4% du marché. 4%. Vous avez cité C'est qui le patron tout à l'heure, qui fait un travail admirable. C'est qui le patron, c'est 3% du lait. Le lait de consommation, c'est 9% de la collecte. C'est-à-dire que quand on a fait sa brique C'est qui le patron, il reste 99,7% du problème à régler. Et donc le vrai sujet, c'est de traiter la masse. Quand j'entends Yves Candebord dire on mange, il faut qu'on apprenne à cuisiner. La réalité, c'est que la démographie, l'évolution de la société fait que on cuisine de moins en moins et on va cuisiner de moins en moins. Il y a d'autres pays où il y a même des appartements où il n'y a plus de cuisine. Ça va venir en France et donc on recourt plus aux plats préparés. On va d'ailleurs plus au restaurant, etc., etc. Donc les évolutions sont très fortes dans la façon de consommer. Et il faut que notre agriculture et notre industrie agricole agroalimentaire soient en capacité d'y répondre. Ça nous amène à un sujet simple. On a un déficit considérable de compétitivité. Et ce qui est très intéressant dans ce qui vient de se passer ces dernières semaines, on a eu les dernières statistiques, le commerce extérieur de l'agriculture et de l'agroalimentaire français depuis des années s'effondre, ça n'a évidemment absolument rien à voir avec la situation de la grande distribution. C'est le symptôme qui montre bien qu'on a un problème critique de compétitivité. C'est ce que disent les agriculteurs sur, et ça a été dit tout à l'heure, les normes. Quand on a dit on veut ou plus politique ou pas, j'ai pas trop compris. Non, les politiques se sont sans doute même trop occupés, vous l'avez dit tout à l'heure, trop de normes, trop de contraintes. Sur l'industrie, c'est pire. Sur la volaille, on importe la moitié de nos volailles. On en importait très peu il y a encore 20 ans. On voulait construire un bâtiment de volaille. Aujourd'hui, vous avez... c'est comme si on construisait une centrale nucléaire, tellement c'est compliqué à faire. Donc on a un problème de compétitivité. On peut faire ce qu'on veut avec la grande distribution, on peut faire toutes les incantations qu'on veut, si on traite pas la compétitivité, notre filière, elle est morte.
Je note deux choses. D'abord que ce salon 2025 est un salon très peu politique. Les élections aux chambres d'agriculture sont passées, les syndicats sont tranquilles, Emmanuel Macron est venu, ça s'est passé sans heurts, et il a écourté sa visite à cause du drame de Mulhouse. Les défilés de ministres, de leaders politiques se passent dans une certaine indifférence, et l'initiative dont on parle, c'est pas une initiative politique. J'ajoute à cela un certain talent de la ministre actuelle, Annie Genevard, pour dialoguer dans la coulisse, travailler les dossiers au fond, sans monter sur les tréteaux et chercher un bénéfice politique. Elle a raison stratégiquement. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que on a identifié les vrais problèmes, l'excès de normes, la surtransposition de directives européennes, et ces problèmes-là, les partis sont en train de s'en emparer, et je pense qu'ils vont être au cœur des programmes agricoles des présidentiables de 2027.
Il y a des lois sur le feu.
La première loi a été votée juste avant le salon, c'est ce qui a déminé aussi le salon, et il y aura d'autres trains de mesures à prendre. Mais cette idée que la France ne doit pas faire du zèle, et qu'on est maintenant dans un environnement mondial où il faut penser compétitivité, ça je pense que c'est une idée qui a infusé. Je crois que les Français ont vu quand même que... l'autarcie, la souveraineté alimentaire, elle était plus acquise dans notre pays. Que la domination dans certains secteurs, même par rapport à des pays comme l'Allemagne, je pense au porc, je pense à d'autres parties de l'élevage, ça n'était plus du tout acquis. On avait pris une première tempête avec les travailleurs détachés, Emmanuel Macron l'a réglé en partie en 2017, on a vu arriver après d'autres tempêtes, comme par exemple le choix compréhensible d'aider l'Ukraine et incompréhensible de punir nos agriculteurs en voulant aider l'Ukraine. Tout cela, ça sera au cœur de la période qui s'ouvre et qui va aller jusqu'en 2027.
Et c'est vrai qu'on a eu un salon cette année calme. Oui. Les politiques n'ont pas été chahutées. Et finalement, la seule petite polémique qu'il y a eu concerne un acteur de la grande distribution qui n'était effectivement pas présent ce matin lors de cette initiative lancée par Karine Le Marchand. Il s'agit de Michel-Édouard Leclerc. Écoutez.
Il faut lui demander à lui. Moi, je ne lui ai pas mis un pistolet sur la tempe, parce que c'est pas mon...
Vous lui avez demandé?
Ah bien sûr, j'ai proposé. Oui, oui. Et ben il m'a dit oui, je vais vous rencontrer. Puis après, il m'a plus rappelé.
Pourquoi il a refusé d'en être?
Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, également de la fédération, a répondu ce matin que d'abord que Leclerc, comme toutes les enseignes, encore une fois, et moi j'en viens, mène des initiatives aujourd'hui tout à fait intéressantes. Leclerc n'a pas une culture historiquement de s'allier avec d'autres. Hein. Dans toutes les initiatives agricoles ou pas, peu importe, Leclerc est une enseigne qui a toujours fait cavalier seul, et c'est assez logique dans le monde des entreprises. Il mène des initiatives, et effectivement, Alexandre Bompard disait que ils nous rejoindront. On peut imaginer que ce soit possible. Mais il faut pas... Franchement, je trouve que Karine Le Marchand est un peu trop forte là-dessus. C'est pas parce que Leclerc n'était pas autour de la table ce matin qu'ils ne font pas le job. Ils le font comme les autres enseignes qui sont présentes.
Henri Gaudron, j'ai une question pour vous. Parce que c'est vrai que pendant la crise agricole, ce qui a été principalement reproché, notamment aux acteurs de la grande distribution, c'est de ne pas être suffisamment transparent quant à l'origine des produits. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas le plus mauvais élève en la matière, parce qu'il me semble que vous avez adhéré au label Origine Info, qui a été mis en place par le gouvernement, pour répondre à la colère des agriculteurs qui avait été mis en place donc l'année dernière suite à cette crise agricole. Néanmoins, il y a encore quelques ambiguïtés dans vos boutiques pour le consommateur. C'est ce qui a été soulevé par le spécialiste de la consommation, Olivier Dauvers. Il s'est baladé un petit peu dans vos rayons et il a relevé quand même un détail qui a son importance. On va regarder, c'est sur ces compotes de pommes. Alors, vous avez à droite la compote pomme-poire et l'inscription dessus, il est noté des fruits français clairement mentionnés. À gauche, vous avez pommes myrtilles. Là, vous avez le message « Les pommes sont françaises ». Et les myrtilles, point d'interrogation. Pour savoir ça, eh ben, il faut aller s'intéresser à la liste des ingrédients écrits en tout petit. Et là, on voit que les myrtilles, en fait, elles viennent de Roumanie. Donc, il y a encore un petit effort à faire sur la transparence à ce niveau-là.
Sur la transparence, non, parce qu'on l'indique, et ça fait maintenant 4 ans qu'on indique les provenances des produits. On est l'un des rares distributeurs à être transparent, aussi transparent. Après, on relocalise le plus possible. C'était le cas, et Olivier Dauvergne nous avait attaqué aussi l'année dernière sur les purées de Marc.
Vous surveillez, hein.
de Marc Biocop, fruits rouges. Et on a changé la recette pour avoir des fraises françaises plutôt que des framboises qui venaient de l'Union européenne. On travaille à cette relocalisation. Des myrtilles, vous en trouvez pas suffisamment en bio en France. Oui, on est obligé. Mais on le dit, on est très clair avec nos clients. Quand vous voyez le...
Enfin, disons que c'est pas aussi bien affiché que la pomme qui est d'origine
France. Oui, mais vous allez avoir sur tous nos produits d'ici la fin de l'année l'origine info. Donc vous aurez le logo origine info avec les provenances des trois premiers produits. Donc vous verrez effectivement sur le devant du packaging, vous verrez origine info, pomme France, myrtille, Roumanie.
Vous avez l'impression que ça a avancé sur la transparence en termes d'origine des produits depuis un an ?
Alors c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui est revenu sur le devant de la scène. C'est vraiment sympa, mais plus de traçabilité, c'est beaucoup de législation qui est d'abord européenne. J'ai pas le sentiment qu'au niveau européen, ce soit une vraie volonté. Nous en France, en effet, je pense qu'on n'est pas mauvais, mais plus il y en aura. Plus le consommateur pourra arbitrer et faire un vrai choix. Mais après, voilà, il y a toujours cette question du pouvoir d'achat. Et pour régler ça, il faut vraiment que je sois plus compétitif. Si je suis plus compétitif, vraiment, si on joue beaucoup sur mes charges, hein, parce que moi, mon revenu, c'est rendement fois prix moins charge. Si je suis plus compétitif, derrière, j'apporterai peut-être plus de leviers sur la chaîne qui suit.
Toute la distribution s'est engagée dans cette démarche avec des vitesses variable. Vous êtes plutôt en avance. L'industrie, moins, mais il faut comprendre pourquoi. On est dans un marché européen, Bruno l'a dit, avec des industriels, nous-mêmes et nos voisins aussi, qui exportent. Et quand vous avez un produit et que vous affichez éventuellement l'origine France, ça a de la valeur en France, mais si vous le vendez en Allemagne, en Italie, en Belgique, sur des productions qu'ils font eux-mêmes, ça n'en a pas. Et donc, ça amène des complexités dans les outils de production, des multiples packagings, et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer au départ. Et on est effectivement dans une réglementation européenne qui n'exige pas ce type d'affichage. On raisonne UE ou non-UE, donc... Plus compliqué que de le dire.
Ça, c'est dur à lire, ouais.
Alors, j'ai une question. Ouais.
J'avais une précision. Ouais, parce que Olivier Grégoire est passé sur le stand de Synodis cet après-midi pour justement défendre Origine Info. C'est un dispositif d'origine privée soutenu par les différents gouvernements. Mais c'est bien un dispositif privé et on essaye de développer ça chacun à notre niveau.
Il a fait une déclaration très intéressante. Elle a dit c'est compliqué de simplifier. Je pense que...
question d'un téléspectateur, Étienne, et ça revient à ce dont on parlait au début de cette émission, à combien seront les tomates de Karine Le Marchand, donc celles qui bénéficieront de ce fameux label L'amour est au prêt, celles que j'achète sont à moins d'un euro. Effectivement, elles sont forcément plus chères, inévitablement.
On n'en sait strictement rien, puisque par définition, le producteur qui souhaitera les vendre parce qu'il est en situation critique, c'est lui qui va fixer son prix de vente à la grande distribution qui, derrière, rajoutera sa marge, modique, on espère, et la TVA. Donc, on n'en sait strictement rien. Ça peut être, comme toujours dans les fruits et légumes, extrêmement variable, suivant les périodes de l'année, suivant la situation des marchés, suivant... Voilà.
Vous pourriez être partenaire de ce label ?
Et en fait, on fait déjà ce travail-là au quotidien dans nos magasins.
Bah oui, c'est ça.
Quand un producteur local vient me voir en me disant « Tiens, j'ai une tonne de céleri rave, ce qui est arrivé encore récemment, j'ai une tonne de céleri rave, est-ce que tu peux me filer un coup de main pour pouvoir écouler ma marchandise ? » On l'aide, on communique auprès de nos clients et on arrive à faire passer, à vendre une grande partie de sa production. Donc on le fait au quotidien.
Bon. Ça vous donne pas envie quand même de basculer dans le bio du coup ?
Non. Mais on n'a pas parlé, c'est de la standardisation aussi. Hein. Ouais. Oui. Ça joue vachement. Hein. Ça fait du mal la standardisation, surtout en fruits et légumes. Hein. Pas pour rien qu'on en importe la moitié aussi.